Salut à tous, bienvenue pour le premier Time Extended. Je suis en compagnie de Chloé, donc qui donne bien le ton, on va dire. Chloé, salut à toi. Alors, donc quand je disais qui donne bien le ton, on a voulu une discussion un petit peu plus détendue, relax, hein, pour les Time Extended, ce qui n'empêche pas du contenu, hein, et puis d'apprendre des choses. Et on s'était dit, hein, justement, tiens, est-ce qu'on pourrait pas discuter d'un des points des interviews qu'on allait vous proposer dans ce premier numéro de Time Extended. En l'occurrence, après avoir interviewé Jean-Jacques Launier de la galerie Art Ludique et qui a signé justement un livre sur la question, on s'est un petit peu accroché avec Chloé sur la question des artbooks. Chloé, tu me disais justement qu'est-ce que tu avais ressenti par rapport aux artbooks dans cette interview, de ce que j'en disais en tout cas.
Mais moi j'avais tiqué sur le fait que tu avais dit que ça se perdait énormément, les beaux artbooks comme il y avait donc avant.
Ouais.
À savoir avec énormément d'illustrations, de recherches, etc. Et que maintenant tu avais droit avec quelques illustrations entre guillemets exclusives que tu pouvais trouver parfois dans les versions collector de certains jeux.
Ah, j'ai dû mal préciser ma pensée. Voilà. Ouais, non, en fait, c'est plutôt le fait que je trouvais qu'il y en avait moins régulièrement d'aussi bonne qualité qu'il y a peut-être, je dirais, une dizaine d'années environ. C'est vrai, ouais, que c'était peut-être pas clair. Mais...
Et en écoutant ça, moi, j'ai tourné la tête vers un artbook que j'ai acheté là il y a même pas 4 mois.
Fais-nous vibrer.
Ah oui. Et en plus, il est fantastique. Donc, c'est l'artbook de Alice Madness Returns.
Ouais.
J'ai même acheté le jeu d'ailleurs, parce que j'ai tellement bavé sur les illustrations, l'ambiance, l'univers, tout ce qu'ils avaient fait dessus, c'était vraiment super. Malheureusement, c'était pas le cas dans le jeu.
Ned.
Exactement, mais cet artbook là, il est vraiment fantastique, ou même un autre aussi, il est un peu plus vieux celui-là, je crois que ça fait un an que je l'ai chopé. Donc c'était celui de Darksiders.
Ah oui, ouais.
Donc illustration de Joe Madureira.
Ouais, grand auteur de comics, hein, voilà. Pour effectivement tout le monde. On va pas faire la grosse chasse gardée, hein, voilà. Tout le monde ne connaît
dedans,
pas forcément.
Même s'il y a moins de pages et le bouquin est moins beau que celui de Alice Madness, était vraiment super aussi parce que tu as énormément de recherches, de recherche du design, d'illustration de décors, de trucs dans tous les sens. C'est
richement illustré.
Tu pleures des yeux?
À ce point-là, d'accord, ah, oui. On pleure des yeux, d'accord, une jolie expression. Mais Madureira, d'ailleurs, sur complètement en un côté, et qu'il vaut mieux plus savoir comme designer sur un jeu vidéo qu'auteur de comics, parce qu'il a une fichue tendance à commencer des projets de comics, ce que j'ai cru comprendre, et puis à se dire, tiens, petite proposition pour un jeu, bon bah, salut les mecs, hein, débrouillez-vous avec ce que vous avez, bah c'est arrivé, hein, je crois sur la série Ultimate, qu'il avait commencé, il a été justement juste après sur Darksiders, si je me souviens bien, donc pas super en termes de rentabilité, je pense, pour les pour les éditeurs chez Marvel, ils ont dû bien s'arracher les cheveux.
Mais donc, pour les jeux aussi, parce que là donc il est en production, ou alors il est fini, je sais plus, pour Darksiders 2, mais ouais. En même temps son équipe s'occupe du prochain MMO de Warhammer 40 000.
D'accord. Donc il assure quand même ses commandes, ou
On verra bien.
Plus ou moins.
C'est de sorte Darksiders 2, donc ils vont annoncer fin 2012, quatrième trimestre 2012.
Ouais.
On verra ce que ça donne.
Mais toi, en tout cas, il faut pas qu'il touche, enfin, il faut qu'il assure jusqu'au bout Darksiders 2, sinon tu deviendras.
Il faut pas non plus qu'il foire son Warhammer 40K, hein, parce que je l'attends au tournant aussi là-dessus.
Plus Darksiders 2, non?
Ouais.
Parce qu'à t'entendre, ouais, tu deviendrais le cinquième chevalier de l'apocalypse et tirer chargé de son cas.
Tous les gens qui ont fait de la merde avec ce jeu qui est fantastique.
Qui est fantastique. Bon, voilà, on recommande. Enfin, Chloé recommande en tout cas. Il a son seal of approval, le seal d'approuvement, encore mieux que chez Nintendo. Non, mais voilà, donc on se questionnait là-dessus. Ces artbooks-là, je crois, s'ils font partie de la série, qui ont été faits. Il y en a eu un de Gears of War pour les grosses licences, je parle, et de Uncharted. Donc c'est chez Ballistic, c'est ça. Ces artbooks-là, il me semble. L'éditeur de celui d'Alice.
Je sais pas du tout.
C'est pas Ballistic. Il me semble que c'est Ballistic, parce qu'ils font différentes éditions, notamment des éditions Supreme Ultimate Collector avec un pinceau de qualité, mais un certificat d'authenticité.
Je crois pas
vu cela. Pas sur celui-là en tout cas. Mais je suis Je suis quasiment certain, enfin, il me semble. Mais c'est vrai que, donc voilà, ouais, moi, ce que je disais, pour revenir à ce qu'on était en train de discuter, c'est plus l'impression qu'il y a, que c'est moins régulier. Avant, par exemple, on avait aussi, dans les sorties traditionnelles, il y avait l'éditeur Digicube, la branche de chez Squaresoft, qui sortait ses artbooks autour essentiellement des productions de Squaresoft, qui étaient encore que Squaresoft à l'époque, encore Square Enix, avec ces formats allongés de artbooks. Il y en avait eu, ils avaient commencé avec FF9, FF10, ils en avaient fait un pour Kingdom Hearts 1, ils en avaient fait un pour Unlimited Saga aussi. Ils étaient en format allongé un peu tu sais comme les artbooks de chez Pixar format et riche en contenu donc c'est ça que je trouve un peu dommage et que ça soit un peu moins systématique maintenant.
Donc toi tu trouves qu'il y en a moins maintenant?
Peut-être que je cherche moins aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même.
Même si c'est, je sais c'est mal, mais j'en achète moins. Mais j'en trouve très facilement et beaucoup et en grande quantité sur le net.
D'accord.
Et il y a quand même énormément encore d'illustrations, de pages et de recherches. Et t'as de tout. T'as du crayonné de base, recherche de personnages, d'armures, de design. En passant par des décors monstrueux, les illustrations finales.
Dépend des jeux. Monstrueux, ça peut être des fois pas forcément dans le bon sens pour certains jeux.
Oui, c'est pas faux.
Tu as des images qui ont l'air de se dessiner dans ton esprit.
Je suis en train de réfléchir. Là, non, malheureusement, je ne garde que les bonnes images dans ma tête.
Ne te force pas, sinon tu pleureras, mais des larmes de sang, là, si je pense que tu cherches des mauvais jeux.
Oui, c'est
malheureusement, il y en a.
Oui, pas qu'un peu.
Mais non, voilà, on se faisait la remarque tout à l'heure, justement, tu étais en train de contre-argumenter violemment en me disant, mais regarde.
En te frappant la tête contre la fenêtre, d'ailleurs.
Voilà, une fatality, c'est dans l'air du temps avec Mortal Kombat 9. Mais non, mais blague à part, en me montrant un book, d'ailleurs, je possède aussi, donc preuve en est que nous. Tu es une femme de goût, donc nous sommes deux. Il y a
une femme de goût, donc.
Une femme de goût, un homme de goût. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Tant qu'on a du goût, c'est tout va bien. Mais je pensais voilà, au Warbook de chez... qui était un hors-série du magazine d'arcade, Arcadia Magazine.
Guilty Gear.
Comme son nom l'indique. Guilty Gear, voilà, tout à fait. Et qui fourmille de crayonnés, de recherches en tout genre. Et c'est vrai que maintenant, étant assez adepte de jeux de baston, je vois... les derniers que j'ai dû acheter qui étaient celui de je crois de King of Fighters 12 où je m'estimais heureux avec mes 3-4 illustrations originales et les 3 quarts du reste du artbook qui étaient plus des move list, enfin comment faire les coups spéciaux, les enchaînements, donc un petit peu dommage qu'on ait plus les deux maintenant.
Alors ça, en parlant de ce genre de jeu, moi j'avais chopé celui de BlazBlue.
Ah ouais.
Effectivement, t'as vachement moins d'illustrations que dans celui de Guilty Gear, mais t'as quand même 2-3 pages par perso.
Mmh. C'est pas trop mal, ouais.
Voilà, mais bon, c'est pas le même genre d'illustration, c'est plus des poses de perso.
Ah oui, c'est leurs différentes stances, enfin les espèces de poses.
T'as pas la décomposition de mouvement
ouais,
aussi bien.
Moi, ce que je trouve est rageant, parce que quand tu vois les jeux de chez Arc System, justement, qui font les Guilty, qui font les BlazBlue, enfin, l'animation en 2D, c'est vraiment c'est des monstres, quoi, à ce niveau-là.
Pas du tout.
Nous ne voyons pas de quoi vous parler. Mais donc voilà, c'était surtout sur ce point-là, je voulais éclaircir, puis ça nous donne une très bonne excuse pour parler artbook, art graphique dans les jeux en général, et puis tout ça. Donc voilà, on avait pensé que finalement un petit blabla d'introduction, ce serait pas mal pour lancer la première interview et le Time Extended. Donc on va tout de suite enchaîner donc avec cette première interview de Jean-Jacques Launier, qui est auteur, co-auteur des deux auteurs de l'ouvrage Art ludique. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui pour Jeugame, moi non plus, de réaliser une interview avec Jean-Jacques Launier. Jean-Jacques Launier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc co-auteur avec Jean-Samuel Crick de l'ouvrage Art ludique aux éditions Sonatine. Malgré le titre qui est déjà assez évocateur, on va peut-être commencer à vous présenter auprès des auditeurs. Donc, l'ouvrage est arrivé... avant l'ouvrage, il y avait la galerie librairie art ludique que vous avez créée avec votre épouse Diane il y a 8 ans maintenant, en 2004. Malgré tout, vous demeurez assez secret. Hein. Même Internet nous dit assez peu de choses sur vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditeurs votre parcours, l'avant art ludique, que ce soit la galerie comme le livre?
Oui, avec plaisir. En fait, c'est vrai que j'ai une formation, en tout cas, de dessin. Alors, c'est vrai qu'on a Diane et moi et les gens avec qui on collabore sur ce projet avons toujours pris le parti de mettre en avant le concept de l'art ludique plutôt que les noms ou les personnalités, parce que je trouve qu'une galerie doit avoir vraiment une âme et une vocation. Donc, le concept de l'art ludique que nous avons créé, sur lequel on reviendra, nous a toujours été mis en avant à travers la galerie bien davantage que les gens qui s'en occupent, même si ce sont des passionnés et s'ils sont fondateurs de ce concept. Pour ma part, j'ai fait des études de dessin, j'ai fait Penningen pour devenir directeur artistique dans les agences de pub, ce qui me vaut, quand je discute avec les grands artistes que nous exposons à la galerie, le fait de pouvoir leur dire que je dessine suffisamment bien pour m'apercevoir que je ne dessinerai jamais aussi bien qu'eux. Donc, mais au moins, ça me permet peut-être d'avoir un œil un peu particulier ou une sensibilité qui nous a permis de faire des sélections avec Diane d'artistes et d'être parmi les premiers à exposer des gens que si le monde entier connaissait les œuvres comme celle du Seigneur des Anneaux, etc., ils ne connaissaient peut-être pas le travail personnel des artistes. Et donc, c'est un petit peu comme ça que c'est démarré. Et après, c'est vrai que j'ai été directeur artistique dans pas mal d'agences je me suis rapproché, j'ai créé même une structure de communication proche du cinéma et du jeu vidéo, j'ai bossé pas mal dans le jeu vidéo, ma vocation première étant la passion du dessin, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de ce désir tenace, et puis la galerie a été vraiment, je dirais, par rapport aux artistes que j'avais rencontrés dans l'envers du décor, du film d'animation comme du jeu vidéo ou de la bande dessinée, la galerie a été vraiment, je dirais, le démarrage de la grande aventure que j'espérais depuis le départ.
D'accord, très bien. Et alors on va mettre, pour parler familièrement, les pieds dans le plat, parce que effectivement, vous parliez à un moment de connaissance, voire de reconnaissance des artistes. Hein, je vais citer Jean-Samuel Crick qui lors d'une interview parlait de son souvenir de Glenn Keane, donc qui est un des pionniers des studios Disney, qui avait donné une masterclass à la FNAC, et à la fin de cette masterclass, il a déclaré: c'est la première fois de ma vie que le monde extérieur me renvoie l'image d'un artiste. Donc, est-ce qu'il y a dans l'ouvrage art ludique essentiellement ce désir de faire reconnaître les auteurs, ou du moins qu'ils soient identifiables?
C'est vrai, le cas de Glenn Keane est représentatif. On l'avait exposé à la galerie, et Glenn Keane, c'est en effet quelqu'un qui a 36 ans chez Disney. C'est le monsieur qui a donné son premier travail à Tim Burton, à John Lasseter. C'est le créateur de La Petite Sirène, de La Belle et la Bête, de Pocahontas, de Tarzan, de Réponse, d'Aladin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, de par son trait, a vraiment marqué l'histoire du film d'animation, qui dessine dans ses dessins personnels pratiquement comme Degas. C'est extrêmement impressionnant, mais à qui personne n'avait proposé d'exposer, jamais. Et quand on a fait l'expo à la galerie à Paris, ce qui paraît incroyable, ça a été, nous a-t-il dit, une des plus grandes expériences professionnelles de sa vie, même si c'est une star dans son univers. Et on l'avait aussi en effet emmené dans cette masterclass avant le vernissage à la FNAC, puisqu'on avait proposé à la FNAC d'être partenaire de sa venue. Ça avait été un succès énorme. Derrière, on avait fait le vernissage à la galerie où toute la rue de l'île Saint-Louis avait été totalement envahie. C'était spectaculaire. Et c'est vrai que tard le soir, quand on l'avait ramené, on avait pris un verre, etc., et il m'avait dit: tu sais, depuis que je suis enfant, je rêve d'être un artiste, mais on ne peut être artiste que si quelqu'un dit que tu es artiste. Et ce soir, je ne m'en suis jamais senti aussi proche. Donc ça avait été très émouvant, parce que bon, c'est un monsieur qui a peut-être bientôt 60 ans maintenant, et qui a un parcours hallucinant, mais la reconnaissance artistique ne lui avait jamais été conférée. C'est clairement le propos de la galerie que d'essayer de montrer au grand public que derrière les choses qui les passionnent, il y a des artistes majeurs.
D'accord. Alors on refait un petit retour justement sur la galerie. On a presque déjà un élément de réponse. Donc la sortie de l'ouvrage finalement elle est indissociable de la galerie Art Ludique, Art Ludique avec un K hein, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Donc on va essayer de replacer un petit peu les choses dans leur contexte, hein, l'histoire de la galerie. Hein. Vous êtes en vacances en Égypte, le téléphone sonne et au bout du fil, vous avez les responsables de Golon Columbia Film qui vous contacte pour organiser une exposition sur Steamboy d'Otomo. Hein, rien que ça, Otomo, qui, rappelons-le, est le créateur d'Akira, autant la bande dessinée que le film d'animation. Ça aussi, c'est intéressant justement dans l'art ludique. Le défi est relevé en 3 semaines et l'exposition réalisée le 27 août 2004, hein, si je ne m'abuse, 6 mois environ après l'ouverture de la galerie. Alors, est-ce que vous diriez que ça a été l'élément déclencheur aujourd'hui auquel on doit, d'une certaine manière, l'avènement de la galerie et puis l'ouvrage art ludique?
L'ouverture de la galerie a été, c'était en effet 6 mois avant et c'était quand même quelque chose de spectaculaire puisque c'était une exposition de Moebius et c'est vrai que ça a donc donné quelque part un univers. C'est la première fois que Moebius dessinait des grands formats tels qu'après et par la suite il a fait et c'est, ça a été quelque chose d'assez spectaculaire qui nous a permis d'avoir déjà une certaine reconnaissance. On avait beaucoup travaillé pour commencer à expliquer ce concept des artistes qui sont dans l'entertainment et de ma part, ma connaissance en effet des gens du cinéma, des gens du vidéo qui connaissaient ma passion et mon désir d'avoir une galerie qui soit la première finalement à exposer les dessins originaux et à montrer la qualité artistique majeure des artistes qui sont dans l'entertainment. C'est vrai que du coup, les gens ont commencé à nous appeler en disant est-ce que ça t'intéresse? Au contraire, Otomo qui connaît Moebius serait ravi de venir. Il vient à Paris, est-ce que tu veux qu'on montre des dessins? Enfin, il y a eu un petit effet boule de neige sur justement ce concept qui a intéressé progressivement, parce que c'était pas facile au départ, hein, parce que c'était pas gagné d'avance, et ça c'est un bon exemple, mais après il a fallu aussi en convaincre beaucoup d'autres de venir nous rejoindre. Mais c'est un petit peu comme ça que le fil s'est amorcé, et en le remontant et en tirant un petit peu tout ça, on a réussi à monter des expos dans plein d'univers, puisque ce concept d'art ludique qui met en avant les artistes de l'entertainment, comme on dit en anglais, mais donc c'est du jeu vidéo, de la BD, des mangas, c'est une film d'animation, et finalement un univers extrêmement vaste et qui nous a permis de faire des rencontres incroyables.
Et on a effectivement posé les bases de la galerie, un petit peu celle de l'ouvrage. On va recentrer sur le jeu vidéo, hein, que nos auditeurs gamers ne tiennent pas rigueur d'oublier, de perdre ça de vue. Alors, on peut citer donc à l'actif d'art ludique des expositions qui ont concerné Metal Gear Solid avec Yoji Shinkawa, qui était la première, réalisée justement la première aussi collaboration, je crois, avec la FNAC, c'est ça, avec Jean-Samuel Cric.
C'est vrai que c'était une exposition un peu exceptionnelle puisqu'ils avaient amené des dessins originaux de la création du jeu et qu'il y avait même eu des mouvements un peu de colère au Japon puisqu'ils ne l'avaient jamais fait au Japon et la France a été une première mondiale.
Ah, on y reviendra, ça justement. D'accord. C'est très intéressant et en présence, excusez du peu justement, d'Hideo Kojima et Yoji Shinkawa lui-même. Et un autre bref petit rappel hein, pour les auditeurs, Jean-Samuel Krieg hein, qui est responsable du pôle culture et de l'organisation des masterclass à la FNAC. Donc quand vous assistez à des rencontres avec Kitano, David Lynch, Kojima, etc. C'est Jean-Samuel Cric qui les chapote. Donc on a eu aussi chez Art Ludique Dead Space 2 avec Yann Milam, directeur artistique du 1 comme du 2, et qui a été exposé donc à la galerie MK2, le pôle MK2. Et on a eu plus récemment donc Assassin's Creed avec Mohamed Gambouz, directeur artistique, et Nicolas Colling à la modélisation des personnages. Donc pourquoi donc j'amène tout ça? Vous avouez donc cette base de votre ouvrage, le fait que les joueurs eux-mêmes ne connaissent pas finalement les auteurs, les illustrateurs, les graphistes qui sont derrière leur expérience vidéoludique. Donc on a finalement une démarche artistique de votre part et puis même je dirais typiquement occidental, et c'est parfait parce que vous l'avez amené vous-même. Au Japon, finalement, malgré le vivier d'artistes qui sont reconnus, bah maintenant on peut dire même mondialement, hein, internationalement, les expositions dédiées sont assez rares. Donc, pour donner des noms, hein, je pense à Kenichiro Yoshimura, Mari Shimazaki ou encore Sawaki Takeyasu, qui par exemple a signé récemment les arts d'un jeu vidéo qui s'appelle El Shaddai, qui visuellement est vraiment une prouesse, avait travaillé sur le caractère design d'Okami, qui visuellement est vraiment une prouesse qui s'inspire des estampes de Lukyoé.
C'est un de mes jeux favoris.
Ah, bah, très bien. Et finalement, alors, est-ce que il n'y aurait pas, à votre avis, une espèce de résistance ou de particularité culturelle à ce niveau-là, de la part de pays, je prends le Japon parce que c'est quand même l'exemple le plus flagrant.
Bah, à la fois oui et à la fois non. À la galerie, on avait fait, il y a déjà pas mal d'années, une exposition aussi qui fut la première, à mon avis, du genre dans une galerie. C'est celle de Lara Croft avec Toby Gard et les dessins originaux de Toby Gard, qui sont, à mon avis, qui resteront les heureuses acquéreurs des dessins originaux de Lara Croft par Toby Gard, à mon avis, ont été bien avisés de les acquérir. C'est vrai que cette démarche artistique est perceptible quand on rencontre les gens. Kojima comme Shinkawa, qui sont venus à la galerie, ont adoré l'esprit. Je pense qu'il faut prendre du temps pour leur expliquer le concept. Et c'est vrai que c'est un concept très nouveau de montrer la dimension artistique d'une œuvre, même si ça paraît évident. Et je pense que du coup, le livre va être utile parce que d'un seul coup, c'est la démonstration par l'image autant que par le texte. Mais on prend conscience de cet univers international. Il est vrai que au Japon, même, enfin, par exemple, dans le bouquin, j'y reviens, Miyazaki a accepté de montrer des dessins personnels de lui sur ses études de films, ce qui est très rare. En général, il veut pas, mais c'est vrai que c'est quelqu'un avec lequel on a un bon relationnel, qui a été convaincu de notre démarche. Pour ça, il faut passer du temps. On l'avait rencontré plusieurs fois, on a fait une expo avec lui, etc. Les Japonais sont des gens dont il faut gagner la confiance. Quand on change de pays, les choses peuvent être différentes. Les Américains sont d'un abord évidemment bien plus faciles. Les Japonais sont toujours un peu sur la défensive, souvent,
plus réservé.
Mais en même temps, voilà, à partir du moment où vous avez leur confiance, qui se mérite, ils peuvent vraiment vous suivre et faire des choses. On a des projets avec Shinkawa passionnants. On a plein de projets qui restent à venir et qui vont vraiment être très spectaculaires. Au Japon, de la même façon que parfois aux États-Unis, le concept d'art contemporain appliqué au divertissement, entre guillemets, n'est pas encore vraiment perceptible, même par certains artistes. Certains artistes sont collectionnés par des collectionneurs de BD, par exemple, mais la notion artistique n'est pas évidente. Aux États-Unis, souvent, quand on va au Comic-Con à San Diego ou quelque chose comme ça, on s'aperçoit que les gens vendent beaucoup de planches, mais ils les vendent pour les collectionner, à la limite, pas pour les mettre au mur, parce que leur épouse, souvent, a horreur, il n'est pas question de mettre ça au mur, et qu'une planche de Batman vaut deux fois plus cher si Batman est représenté sur trois cases que sur une seule. Ce qui compte, c'est un peu comme une collection de timbres. C'est d'un seul coup le collectionneur furieux, mais ça pourrait presque être une boîte de camembert. Dans notre démarche, et sans du tout dénigrer ça, parce que je suis un fan aussi et je suis capable d'un grand collectionneur, mais notre démarche, c'est vraiment de mettre en avant l'art qui prédomine et l'art qui influence le jeu, la bande dessinée, etc. Donc, il faut aussi expliquer à ces artistes japonais, américains, etc., que ce qu'on veut mettre en valeur, c'est leur dimension artistique. C'est un vrai travail parce que c'est complètement nouveau et souvent, par rapport à des japonais où le barrage de la langue est compliqué, leur timing aussi, etc., il faut passer du temps. Au Japon, par exemple, le manga reste encore très peu considéré comme un art. C'est un peu comme dans les années 50 en France où la BD était un truc pour enfants et à aucun moment ça a été un art. Ils ont ce côté un petit peu encore, parce qu'il y a beaucoup de productions de manga, que ça se lit dans les gares, que ça se jette, etc. Mmh. Et ça n'est pas, je suis allé, moi, il y a quelques années au studio Ghibli voir Miyazaki et je leur demandais, est-ce que vous connaissez une galerie un peu comme la nôtre, et il n'y en avait absolument pas. Et quand je leur ai dit, j'aimerais trouver des galeries qui vendent des originaux de manga, ils n'avaient aucune idée de où on pouvait trouver ça, parce que pour eux, la notion de vendre des planches de manga comme quelque chose d'artistique n'avait quasiment aucun sens. Donc je suis sûr que là, c'est en train de changer. Mais voilà, tout ça est très nouveau, donc il y a vraiment un travail, quelque part, artistico-éducatif à partager avec les artistes eux-mêmes parfois.
Ouais, finalement c'est le plus gros challenge pour l'instant, c'est encore de leur faire presque comprendre que la démarche artistique alors qu'ils le sont eux-mêmes, ou en leur faire prendre conscience.
D'une certaine façon, oui, parce qu'aux États-Unis, ils sont collectionnés par des collectionneurs. Au Japon, ils sont en effet dans une bulle et ils sont très respectueux de leur travail qui prédomine. Enfin, il y a en effet quelques barrières à franchir, mais ça va très, très, très vite. Hein, donc,
ouais. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans l'ouvrage, on le voit autant dans l'origine du terme manga, donc l'ouvrage de divertissement, hein, je grossis l'étymologie, et puis d'anecdotes comme des celluloïdes qui avaient été carrément jetés, justement, on parlait du studio Ghibli, et où les fans allaient chercher dans les poubelles, hein, tout simplement. Donc effectivement, c'est un rapport qui est un petit peu différent. Alors, en tant que voilà, dans votre démarche artistique et en tant que galériste, il faut bien entendu faire des choix. Il y en a peut-être deux qui sont majeurs. Le premier concerne finalement toutes les expositions et le nombre d'œuvres à exposer. Dans le cas de la galerie Art Ludique, vous êtes, quand je dirais, limité en termes d'espace. Donc c'est un espace peut-être plus restreint. Pour représenter à ceux qui sont jamais venus, beaucoup plus restreint par exemple qu'un musée, évidemment. Comment est-ce que vous vous en accommodez? Est-ce que ça ne vous frustre pas, comparativement, j'ai envie de dire, à vos régulières expositions, si on les compare par exemple à l'exposition Miyazaki Moebius, où vous disposiez de la Monnaie de Paris comme terrain de jeu, quoi?
Non, mais bien sûr, la galerie, je crois, fait 100 mètres carrés, donc ce qui est à la fois bien et à la fois très petit par rapport aux immenses artistes qu'on expose. Et c'est vrai qu'il manque un lieu d'importance sur lequel nous travaillons et que nous espérons un jour pouvoir piloter, quoi. Après, heureusement, on fait relativement régulièrement des expos comme celle de la Monnaie de Paris, mais c'est clairement nous qui étions allés voir la Monnaie de Paris, qui étions allés voir tous les artistes, qui étions dans le processus d'enclenchement et de décision de toute cette expo. Et c'est vrai qu'en France, il faut vraiment pousser les wagons très fort pour arriver à faire des expositions d'importance sur l'art de l'entertainment d'une certaine façon. Il manque clairement des lieux d'exposition majeurs sur ces secteurs qui sont la BD, le jeu vidéo, enfin, hein, carrément pas, ou l'animation. Donc, mais c'est clairement, c'est notre but, ça. Absolument.
D'accord. Alors, le second choix que j'ai évoqué également, ce qui concerne tout particulièrement le jeu vidéo, aussi l'animation, mais on va, je pense, s'en rendre compte plus particulièrement, c'est le choix des illustrations, donc 2D ou 3D finalement, hein, est-ce qu'on est avec des crayonnés ou est-ce qu'on est avec des représentations en graphisme 3D? Comment est-ce que ce choix s'organise? Est-ce qu'il s'agit, s'effectue en fonction du jeu? Comment ça se passe dans la démarche où les artistes fournissent eux-mêmes leurs œuvres? Est-ce qu'il peut y avoir des cas où les choix sont imposés par les éditeurs de jeux eux-mêmes?
Pardon. Non, les éditeurs de jeux. Enfin, là, clairement, on est vraiment décisionnaire de ce qu'on expose avec l'artiste. Les éditeurs nous ont toujours soutenus. À partir du moment, pardon, où ils nous soutiennent, ils nous laissent faire, quoi. Ça c'est clair. Et c'est vrai que dans un jeu, il y a, c'est ce qui est intéressant. C'est ce que je dis souvent dans des productions comme le jeu vidéo ou l'animation, d'une certaine façon. Il y a une réunion d'artistes comme à l'époque de la Renaissance italienne qui viennent se réunir autour d'une grande œuvre. Et donc, il y a des gens qui font des crobats, il y a des gens qui font des gouaches, il y a des gens qui font des sculptures, il y a des gens qui font des artworks digitaux. Donc, souvent, l'expo peut être un reflet de ça et montrer certaines études préparatoires, des croquis sur Dead Space. Je me souviens, il y avait les études du costume du héros qui étaient géniales. Au crayon, c'était super, extrêmement fin, vraiment impressionnant parce qu'on voyait vraiment la démarche qui était entre l'illustration assez percutante et quand même une technologie, un savoir-faire qui devenait cohérent avec le mouvement et l'équipement du héros. Et puis il y avait des artworks beaucoup plus
bruts,
absolument, qui eux venaient dans la démarche artistique du jeu donner des indications à tous les intervenants qui allaient techniquement après réaliser le jeu. Donc il y a un jeu comme un film d'animation, etc., est composé de choses comme ça qui s'imbriquent, et l'esprit de l'exposition, c'est justement d'essayer d'en être le plus fidèle.
Et puis justement, comme l'ouvrage Art Ludique, de commencer à avoir un support. Hein. Je, par exemple, à l'esprit, finalement, les... Bon, on revient du côté de l'animation, mais c'est les superbes livres qu'on a, de, surtout des, du côté des éditions Pixar, donc les Art of, qui sont dédiés à chaque film d'animation, voire même de court-métrage, si je m'abuse. Hein. Je crois qu'il y en a eu pour Presto, etc. Et où finalement, ça reste encore assez rare, si ce n'est les illustrations qu'on peut parfois retrouver rangées de manière un petit peu disparate et pas forcément cohérente dans les dans les bonus des DVD de chacun de ces films d'animation. Alors on revient vraiment dans le cœur du jeu vidéo. Alors il semble, si je ne m'abuse, que vous avez travaillé sur Tomb Raider vous-même personnellement durant une dizaine d'années, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et puis au-delà de ça, qu'est-ce que vous pensez finalement de l'évolution de la série depuis que vous avez quitté donc cette équipe et le relaunch récent justement de la saga Tomb Raider et de Lara Croft?
J'ai eu la chance, en effet, alors, étant dans la communication directeur artistique, mon métier c'était de trouver des idées et d'être créatif. Et c'est vrai que j'ai croisé les gens de Eidos à l'époque où Tomb Raider arrivait, donc était vraiment nouveau. Et en même temps, j'étais un furieux de gamer. Hein, donc c'est vrai qu'à l'époque, ça a été vraiment révolutionnaire. C'était un nouveau genre, un nouveau style. Une ouverture, une évasion, presque, c'est, de mémoire, hein, c'était les premiers jeux qui offraient un voyage, d'une certaine façon, une découverte, une musique un peu magique quand on ouvrait des secrets, évidemment Lara Croft et son soupir quand elle mourait, enfin, il y avait vraiment quelque chose d'hyper passionnant et novateur, et faire la communication sur ce jeu-là pendant, je pense que j'en ai fait 7 ou 8, donc ça a duré une bonne douzaine d'années, a été une aventure géniale avec une équipe de gens superbes. Donc, et puis le fruit d'expérience, c'était parce qu'on passait du concert de U2 à chaque fois à des jeux concours incroyables où on faisait gagner des voyages en Égypte. Enfin, on essayait de corroborer avec ce que proposait le jeu et l'univers du jeu, et puis d'essayer de monter autour quelque chose qui donne effectivement envie aux gens de jouer. Et puis on a eu la chance d'être quand même sur le jeu qui est référent. Je crois que Lara Croft est classée par Time Magazine comme une des 20 personnalités du siècle, dans la mesure où elle incarne à elle seule le concept du virtuel, le jeu vidéo et quelque part le passage dans un autre siècle. Donc pouvoir travailler sur cette icône a été vraiment quelque chose une expérience ultra enrichissante. Après, c'est vrai que je trouve que ça évolue plutôt bien. C'est vrai qu'il y a eu un certain renouvellement. J'ai pas joué au dernier, parce que alors du coup écrire un livre ça prend 2 ans.
Oui.
Et là du coup je continue à jouer beaucoup, mais en ce moment un peu moins. Je vais beaucoup m'y remettre. Il y a plein de jeux. Je suis très très en retard. Mais c'est vrai que maintenant il y a des concurrents comme Uncharted, évidemment il y a des choses comme ça qui arrivent qui sont des méchants concurrents, mais dont l'inspiration sur Lara Croft est clairement évidente. Et en plus je suis un peu de parti pris parce que j'ai clairement un affect sur Lara Croft, forcément, avec qui j'ai travaillé personnellement, et c'était drôle dans les réunions, on parlait de alors qu'est-ce qu'on peut faire avec elle, etc. On parlait d'elle comme une personne vivante, donc c'était vraiment une époque assez jubilatoire.
Et la rencontre justement peut-être avec Toby Gad à ce moment-là?
Absolument, non, mais voilà, bien sûr, Toby Gard qu'on a exposé ici, dont évidemment, on sait qu'il a créé Lara Croft a priori vers 16 ans et demi, enfin voilà, et quand on l'a exposé, il en avait 29, alors qu'on était déjà à je sais plus quel opus de Lara Croft, mais c'était un succès planétaire. C'est quelqu'un d'assez renfermé, c'est quelqu'un, quelque part, qui a eu cette idée incroyable, qui sur le papier tenait pas la route, parce qu'à l'époque c'était Duke Nukem, des trucs ultra méchants, donc sortir une fille un peu sexy dans cet univers-là paraissait presque incohérent, et en même temps maintenant ça paraît évident, et ça a été une vraie belle expérience de la même façon, puisque comme on évoquait Glenkin tout à l'heure, personne lui avait jamais demandé d'exposer quoi que ce soit, et c'est ce qui est intéressant, c'est de montrer quand même aux gens, parce que on le découvrira plus tard, mais c'est toujours dommage de découvrir plus tard, ou quand ils sont morts, ou quand ils ont disparu, les gens qui ont créé quelque chose. Je trouve que, et si la galerie a bien une démarche et une volonté, c'est de montrer et de partager avec ces artistes qui sont vivants, créatifs et passionnants, partager avec le public leur créativité et leur sensibilité, parce que ce sont des gens en plus qui adorent communiquer et qui adorent rencontrer les gens et qui sont susciteurs de vocation.
un plaisir ludique, donc aller finalement aller faire
des c'est vrai que la galerie le mercredi il y a des écoles qui viennent, il y a des choses comme ça, enfin la galerie se veut clairement ludique, donc il y a plein d'étudiants, des gobelins, des choses comme ça, enfin on est loin d'être j'ai rien contre les gens qui arrivent, on est loin d'être ce côté hermétique où on est un peu mal à l'aise quand on rentre, enfin, la galerie elle s'appelle art ludique parce qu'elle elle l'est vraiment.
D'accord. Et donc, par contre, on a dans vos souvenirs passionnés, on n'est pas venu sur la question du relaunch, de ce que vous avez pu voir, des images, de qu'est-ce que vous avez un petit peu pensé, parce que finalement, l'image de Lara Croft, elle a été pas mal modifiée. Bon, je parle surtout aux fans, notamment vers une certaine forme de noirceur. Beaucoup de fans avaient reproché le fait que Lara Croft puisse sciemment tuer ses adversaires. Donc, on est arrivé vers quelque chose d'assez noir, et là le relaunch reste aussi assez noir, mais dans quelque chose de nouveau, de différent. Qu'est-ce que pour l'instant des visuels de ce que vous avez pu en voir, qu'est-ce que vous en pensez?
Ça a l'air très beau, hein, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu prématuré. C'est vrai qu'il y a eu l'ange des ténèbres, il y a eu des choses, mais on peut imaginer que quand on est à la tête d'une saga comme ça, il faut forcément, mais enfin, que ce soit la guerre des étoiles avec l'Empire contre-attaque, etc., à un moment il faut une densité dramatique, sinon je pense qu'on s'essouffle. Et il faut, je crois, avoir une imagination créative, quitte à faire des choix qui parfois vont peut-être un peu trop loin pour revenir, mais je pense que c'est dans cette dramaturgie, ils ont créé un personnage, et si on pense à toutes ces icônes, que ce soit Batman ou toutes ces choses comme ça, il y a une noirceur importante qui est forcément une composante d'un héros de cette dimension-là, quoi. Il peut pas être que gentil, enfin, ou alors au bout d'un moment, je pense qu'il lasse, ou alors il reste dans un segment très enfant, etc. Quand on est comme ça en charge d'essayer de faire des aventures, de créer, il faut qu'il y ait des rebondissements, et parfois il y a une certaine noirceur. Dans le prochain, peut-être qu'il y a, une correction de tir, mais c'est vrai qu'on a vu relativement peu de choses pour ça, mais ça a l'air relativement jubilatoire quand même. Et c'est toujours intéressant. Et moi, j'ai cet affect particulier avec Lara, mais je suis vraiment curieux de voir ce que ça va devenir.
D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure des fans qui exposent leurs affiches, leurs produits dérivés chez eux aux grandes dames de leurs épouses ou de leurs compagnes. Par contre, vous annoncez la couleur, hein, lors d'une interview, une collection de 700 figurines et d'autres objets dérivés. Vous avez dit qu'avec le temps, vous êtes davantage concentré sur les créations originales ou vraiment limitées, ce qui est logique d'autant plus dans votre démarche de galériste. Est-ce que vous avez pour autant abandonné votre collection plus mainstream, je dirais?
Non, j'ai toujours mes 700 figurines. Il y en a une bonne centaine de Lara Croft d'ailleurs, avec des collecteurs introuvables. Et c'est vrai qu'ayant eu la chance de bosser beaucoup dans le cinéma, j'en ai récupéré plein de par la promotion des films sur lesquels je travaille. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'ai de très très beaux collecteurs. C'est vrai qu'après, j'avais envie plutôt de collectionner les dessins originaux qui sont la genèse des figurines quelque part. C'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dépensé quand même dans ces 700 figurines, alors que pour ce prix-là, je pouvais avoir des très beaux dessins du créateur lui-même, et c'est aussi une des clés de la galerie. Mais clairement, je garde mes 700 figurines avec une jubilation extrême. Cela dit, c'est le parti de la galerie, d'une certaine façon aussi, c'est justement de pouvoir montrer la dimension artistique et non pas d'être geeks. C'est vrai que les figurines, ça, c'est très geek, c'est que l'épouse en général n'est pas très très fan. Ce qu'on expose à la galerie est différent. Je me souviens de l'exposition Assassin's Creed. Je dirais que pour une bonne moitié, les gens qui ont acheté l'étoile étaient carrément pas des gamers. C'était limite des gens qui connaissaient pas le jeu, mais qui étaient tellement bluffés par cette qualité artistique majeure des images de Venise, de Florence pendant la Renaissance, que peu importait quelle était l'origine du jeu, etc., c'était la qualité artistique qui les avait séduits et qui les avait amenés à acquérir l'œuvre. Et je trouve que ça, c'est révélateur de la dimension artistique, et ça, c'est important. Et notre but est justement, et heureusement, on a plein de couples, etc., qui achètent. Enfin, l'idée, c'est justement de montrer et de donner envie d'offrir des coups de cœur à des gens sur des choses qui peuvent paraître geeks, parce que oui, c'est Assassin's Creed, mais en même temps, ils sont d'une qualité sublime, et que même des gens qui ne connaissent même pas le jeu ont envie d'acheter.
Et finalement, peut-être cette familiarité, surtout historique et artistique, peut ramener un nouveau public, je dirais. Bon, vous parliez d'Assassin's Creed, on parlait tout à l'heure d'Okami, qui pourrait tout de suite taper dans l'œil pour ceux qui sont un minimum familiers avec les estampes japonaises, l'ukiyo-e, etc. Donc peut-être une nouvelle voie d'accès. Mais pour revenir donc aux produits dérivés, que bon, vous avez un petit peu différencié des produits originaux, mais est-ce que vous voyez une certaine hiérarchie par rapport aux produits, enfin aux créations plus limitées et originales, et est-ce qu'ils sont liés en règle générale à l'art ludique, est-ce qu'ils s'en distinguent, est-ce que c'est une synergie, un ensemble?
Ce qu'on expose dans une galerie, le dessin original la toile originale digitale a forcément une valeur personnelle et affective parce qu'elle est unique, quoi. Donc par essence, ça n'est pas une production. Et la figurine est fascinante. J'en ai beaucoup, mais je dirais elle est identifiable à un très bel album de bande dessinée qu'on peut acheter. Ouais, alors après il y a les ouvrages de tête, etc. Ça, je dirais que ça il y a la différence est sans doute dans la production et dans l'original, quoi, d'une certaine façon. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le dire. Après il y a des séries extrêmement limitées. On a fait une expo avec Mike DiFeo, le sculpteur de l'âge de glace, qui a fait un Scrat original, qui est une sculpture originale, qui est d'ailleurs allée en vente aux enchères pendant la FIAC, dans la vente de cornettes de Saint-Cyr d'art contemporain. Donc c'était génial de voir Basquiat, Warhol, Liechtenstein, César et Scrat l'un à côté de l'autre dans une vente commune. Ce qui est totalement le concept de la galerie, c'est de dire que voilà, ces artistes-là ont largement leur place à côté des autres. Et forcément, du coup, c'était une grosse sculpture originale. On peut évidemment plus appeler ça une figurine. C'est un travail qui a demandé beaucoup de temps à l'artiste. Enfin, on peut facilement saisir la nuance. Il n'en reste pas moins vrai que s'il en faisait un produit dérivé en plus petit format, etc., ça serait quand même une émanation de cet artiste-là. La différence, c'est vraiment l'original et la production.
D'accord. Alors, je reviens donc sur l'ouvrage à proprement parler. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, hein, c'est on a vraiment une espèce de livre d'art ludique. Alors, je précise bien livre d'art, pas dans le terme un peu galvaudé du terme quand on parle de art book, etc. Là, on est vraiment avec un livre d'art autant dans les dimensions. Hein, on est sur un ouvrage de 464 pages, qualité de papier, illustrations. Et puis finalement, même la progression elle-même est ludique. Hein. On peut très bien, pour les plus jeunes, passer seulement par l'accès aux images. On peut s'intéresser à l'historique, au descriptif, aux problématiques qui sont posées. Hein. On est évoqué Topfer, qui était le premier créateur de bande dessinée, Émile Cole, à qui on doit une école d'animation à Lyon, donc à qui on doit les premiers formats de films et de cinéma d'animation, enfin les cours en tout cas. Et puis on a aussi des références qui sont proches de philosophes, et là on met, j'ai envie de dire, peut-être le pied sur la question qui est le nerf de la guerre de votre ouvrage. Bon, je pense par exemple à Benjamin et à son fameux article sur la question de l'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Ou un petit peu plus proche de nous, Scott McCloud avec son fameux art invisible, qui tente justement, pour McCloud en tout cas du moins, à démocratiser et à faire comprendre que cet art ludique, que ces créations artistiques, graphiques, narratives de jeux vidéo ou d'animation ne sont pas à mépriser, bien au contraire, et à reconnaître. Donc qu'est-ce que vous pourriez justement nous dire sur ce point qui est un petit peu l'élément central de l'ouvrage et la définition de l'art ludique d'ailleurs que vous le posez.
Non mais c'est vrai que le livre est vraiment, je pense, un point de référence qu'on a voulu parce qu'il nous a semblé nécessaire. On a vu au fur et à mesure du temps que la galerie, qui au début était perçue quelque chose comme pas sérieux, entre guillemets petit Mickey, etc., dont les journalistes de l'univers artistique parlaient pas, on a vu l'évolution. On a vu l'évolution dans les ventes aux enchères aussi de la BD principalement pour l'instant, passer à des prix et des records de vente vertigineux. On a vu un mouvement et un basculement. C'est vrai qu'on est très précurseur sur l'univers du jeu vidéo, mais ce livre, on a voulu d'un seul coup qu'il devienne la référence même pour les journalistes. Je vois, j'ai beaucoup de discussions, les gens quelque part le sentait, elle disait oui, c'est évident, les mecs dessinent fabuleusement bien, sont des grands maîtres, les icônes comme, encore une fois, Batman, ça va rester des logotypes ou des iconiques qui vont rester bien au-delà de certains grandes toiles de grands maîtres qu'on a connues ces 80 dernières années, parce que c'est quelque part, d'une certaine façon, on parle des gens qui façonnent notre imaginaire, qui façonnent notre culture depuis notre enfance, et qui sont vraiment les gens qui nous inspirent dans nos choix artistiques et dans nos démarches. Donc c'est des gens fondamentaux qui, dès le début, nous accompagnent et qui quelque part, sont à l'origine de nos sensibilités et de nos envies. Donc c'était important de leur rendre hommage et de montrer qu'à travers le jeu vidéo, qu'à travers la BD ou qu'à travers le cinéma, dès qu'on est quelque part enfant, etc., ben on est confronté à l'art. Et ce qui était dommage, c'est de pas le dire, quoi. C'est-à-dire que quelque part, que l'art soit devenu relativement hermétique ces 50 dernières années, pour le moins, alors qu'il est prédominant dans toutes les choses qui passionnent le grand public. Et cet ouvrage, s'il peut d'une certaine façon reconnecter le public avec l'art, ce qui est légitime, c'est ça vraiment son sens premier. Et c'est vrai que quand on discute avec les auteurs, les artistes, leurs inspirations sont classiques. Je discutais avec les créateurs de Assassin's Creed, le nouveau Révélation, clairement, puisqu'ils étaient à Istanbul et à Constantinople, etc., leur inspiration majeure qu'on voit dans la lumière, etc., c'est les peintres orientalistes. Et c'est intéressant de pouvoir le dire, parce que je pense que on peut ainsi tisser une passerelle légitime entre ces artistes contemporains et puis des artistes plus classiques, et ça peut donner envie d'aller voir au Louvre. J'avais discuté avec Zack Snyder quand il faisait 300, etc., il me disait que voilà, il passait son temps au Louvre à voir l'étoile immense de Raphaël, parce que ça lui donnait le sens de la composition, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une continuité quelque part dans l'art ludique qui, à mon sens, est la continuité des gens de Daumier, de Degas, de Doré, de tous ces grands peintres. Alors, en fait, on les retrouve souvent et principalement, en tout cas dans leur démarche artistique, à travers l'entertainment. Mmh.
Et puis c'est finalement très intéressant, parce que on a une continuité qui est un point aussi, c'est finalement ce que vous évoquez avec Jean-Samuel Krieg tout du long de l'ouvrage, qui est le point de, je dirais, central, c'est le crayon d'une certaine manière, hein, quelle que soit la création, que ce soit pour écrire. Mais justement sur cette dimension narrative, hein, vous parliez de Gustave Doré, quand on peut faire des parallèles, hein, même s'ils sont un petit peu sauvages, Doré qui illustrait si ma mémoire est bonne, qui a illustré l'enfer de Dante, et dans une dimension vraiment d'une espèce de fresque avec une dynamique, un découpage presque à sa manière à l'époque. Et puis on voit aujourd'hui Dante's Inferno, qui est voilà un jeu yay avec un soin graphique, une volonté justement de narration. Donc il n'y a pas de, enfin moi en tout cas j'en étais convaincu, je sais pas pour nos auditeurs quand ils liront l'ouvrage, mais en tout cas j'étais vraiment convaincu par le fait qu'il n'y a pas de rupture, il y a juste une modification, un changement, de laisser une place finalement à cet art ludique, je pense.
Ouais, absolument. Non, c'est, encore une fois, c'est une continuité. Il y a eu une rupture avec l'art à partir du moment où il est devenu conceptuel, abstrait, etc., qui est un courant artistique majeur et qui a prédominé ces 80 dernières années. Mais c'est vrai que tous les artistes figuratifs, narratifs, qui étaient du coup un peu exclus de ce nouveau mouvement artistique, c'est un peu ce qu'on explique dans le livre, mais se sont plutôt mis dans l'entertainment, sont partis souvent aux États-Unis avec Walt Disney, qui a été quand même quelqu'un d'extrêmement important dans cet univers-là, puisque c'est lui qui a récupéré, on l'avait vu dans l'expo au Grand Palais notamment, qu'il y a eu il y a quelques années à Paris sur l'œuvre de Disney, on a vu à quel point il avait su attirer les grands illustrateurs européens, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve, c'est intéressant, on retrouve dans les Blanche-Neige, etc., toutes les petites maisons allemandes, etc., qu'on retrouve dans les Miyazaki, parce que Miyazaki a adoré, enfin, l'Europe et le terreau de grands artistes européens est prédominant dans la création contemporaine d'aujourd'hui de l'entertainment. Mais c'est vrai que je pense que ce flambeau entre Doré ou Daumier, quand on voit Daumier et ses caricatures, on pense vraiment à Peter de Sèvres, qui est l'illustrateur de Scrat et de tous les personnages de l'âge de glace, mais aussi de Nemo, mais aussi un immense caricaturiste qui fait les couvertures du New Yorker. Ce sont des gens qui sont une familiarité, ils sont voisins. Et d'ailleurs, quand Peter de Sèvres vient à Paris, il passe son temps au musée d'Orsay, oui, à aller voir les dessins de Daumier, il est totalement fan. Ils sont de la même famille, et c'est important de le montrer, c'est important aujourd'hui où les choses vont super vite et où tout est un peu un produit, ce qui est naturel, donc l'âge de glace est un produit, c'est vite un DVD, c'est vite ceci, c'est vraiment important de montrer qu'à la base, il y a des gens qui vont dans les grands musées dessiner les squelettes des dinosaures pour pouvoir les caricaturer derrière, qui ont une base académique hallucinante, qui sont des maîtres du dessin et de la peinture, et qui sont donc capables de restituer après une caricature fabuleuse, parce qu'ils ont justement ce souci du dessin et que ce sont des artistes immenses.
Alors, une dernière question, Jean-Jacques Launier, qui concerne justement cette transformation finalement à la fois de la reproductibilité des créations artistiques et puis finalement par extension de leur acquisition. Quel impact vous pensez que ça peut avoir en lien justement avec l'art ludique? Là, je me pose un petit peu bassement en tant qu'avocat du diable. Est-ce que justement cette sorte d'hyper-productivité que les gens ont parfois de manière familière dans les yeux viendrait pas, ou à l'esprit, viendrait pas tuer justement la création en soi?
J'ai pas tout à fait saisi.
Alors, pardon. Oui, c'est-à-dire, est-ce que finalement, le fait que maintenant, donc, les œuvres d'art sont, même, bien entendu, quand elles sont originales, reproduisent d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple qu'il y a encore quelques siècles, et le fait que l'alimentation du marché de l'art est beaucoup plus rapide, beaucoup plus important qu'il y a quelques années, est-ce que vous pensez pas que, justement, ça peut être un élément, je dirais, familièrement, qui pourrait entraver ou modifier la qualité justement de ces créations-là?
La production de l'art dans cet univers-là n'est pas fondamentalement plus rapide que la production des grands artistes dont le métier était que de peindre toute la journée. Hein. Enfin, si on prend les grands Picasso, il peignait toute la journée, sa production elle est colossale, hein, sans comparer Picasso, un grand maître, nécessairement à des grands artistes de l'entertainment. Mais non, je pense qu'au contraire, c'est assez rare d'avoir des dessins. C'est même très très rare. Trouver un dessin de Miyazaki est une gageure. Je pense que c'est quelque chose d'assez rare. Les dessins de Glenn Keane, encore une fois, n'ont jamais été exposés. Ceux de John Ho, qui est le dessinateur de beaucoup de choses, du Seigneur des Anneaux et bientôt du Hobbit, on a été aussi les premiers à les exposer. Je parlais de Peter de Sèvres qui a dessiné Scrat. Je crois on a été aussi les premiers à les exposer. Il avait accepté de faire une dizaine de dessins de Scrat, point, quoi. Enfin, c'est une production très modérée, d'une certaine façon. La bande dessinée s'ouvre davantage. Alors, c'est vrai qu'après, je dirais que c'est pas parce qu'on fait de la bande dessinée qu'on est un grand artiste, forcément. Heureusement, c'est de la même façon. On peut être un peintre du dimanche ou on peut être un immense peintre. Il y a aussi ce choix qui rentre en ligne de compte. Mais je crois que les grandes œuvres, le public en lui-même le découvre. Benjamin, par exemple, cet artiste chinois hallucinant qui est en train vraiment de faire une percée incroyable, et quand on est confronté à une de ces toiles, forcément on en voit la densité, l'impact, et Benjamin a une assez bonne production, mais il n'arrose pas le marché, loin s'en faut.
Et puis c'est finalement peut-être en laissant l'espace à des créateurs, en ouvrant ses frontières avec cet art ludique là, qu'on pourra voir vraiment des concepts au-delà de la création artistique qui véhiculent des idées, comme si je ne m'abuse, Benjamin dans son cas a un discours assez poussé sur la question de l'homosexualité en Chine, il me semble.
Benjamin à la base est en effet quelqu'un qui a eu beaucoup beaucoup de mal à être édité en Chine, non pas à cause de la censure elle-même, mais je dirais que ses éditeurs anticipaient la censure, puisqu'en effet, ses propos sont plus sur le mal-être chinois, le suicide, l'homosexualité, etc. Donc clairement, même si son talent était incroyable, les éditeurs n'osaient même pas publier ses œuvres. Donc c'est presque venu par l'Europe. Après, maintenant, il commence à être vraiment reconnu en Chine, parce que les Chinois s'aperçoivent qu'il a un succès important, qu'il est en effet en galerie. Nous, on a eu énormément de succès avec lui. Qu'il est en train de travailler sur un film d'animation en Chine en ce moment. Les choses bougent, mais c'est vrai que alors ça, c'est s'il y a bien un artiste pur et dur qui a aussi écrit des romans, qui essayait de faire de la musique, qui traînait dans les groupes de rock, c'est vraiment sa vie en elle-même est déjà une saga. C'est un personnage incroyable. C'est un peu un Basquiat asiatique, et c'est Corneille de Saint-Cyr qui le dit. Donc c'est pas moi, c'est le président du Palais de Tokyo. Donc, voilà. Enfin non, c'est au-delà même de leur talent, c'est souvent des personnages incroyables.
D'accord. À Jean-Jacques Lenier, merci beaucoup. En attendant que justement l'art devienne ludique à proprement parler, vous pouvez vous procurer le. J'insiste encore, hein, c'est il n'y a pas de parti pris, le magnifique ouvrage donc Art ludique de Jean-Jacques Lenier et Jean-Samuel Krieg. C'est aux éditions Sonatine. C'est un ouvrage de 464 pages. Vous trouvez ça soit via le site d'Art ludique, soit sur le plateforme. Vous pouvez commander ça sur internet. Sur différentes. Voilà, sans surprise à la Fnac. Et sinon, si vous êtes parisien à proximité ou en déplacement à Paris, vous pouvez venir visiter la galerie à Art ludique, peut-être avoir la chance de discuter avec Jean-Jacques s'il est présent, ou avec son épouse Diane Lenier, qui sont suffisamment passionnés, je pense, pour échanger même avec les plus bavards d'entre nous. Merci beaucoup Jean-Jacques.
Merci Lenier.
On se retrouve donc pour en ce moment une deuxième interview, hein, toujours avec Chloé. Des petites rectifications d'ailleurs entre temps concernent l'éditeur justement du artbook de Alice in Wonderland qui n'était pas chez Ballistics,
Alice Madness
contrairement à ce que je disais, qui n'est pas de chez Ballistics mais de chez Dark Horse, célèbre éditeur de comics s'il en est. Donc Ballistics c'était plutôt pour Years of War et Uncharted de mémoire et pas pour Alice, donc c'est corrigé. Et concernant l'ami Joe Madureira, j'ai dit auteur, c'est un peu large, en fait il est essentiellement illustrateur, sauf sur Darksiders comme tu me disais où il fait
je crois que c'est son bébé, hein, Darksiders. Et c'est lui qui a fait essentiellement 90% des graphismes, des recherches, etc. D'ailleurs elles sont magnifiques,
monsieur Madureira.
Mais je suis pas sûre non plus à 100%, mais je crois bien que le projet, c'est lui qui s'en occupe en tant que lead.
D'accord. Donc,
il faudra vérifier quand même.
Donc on corrige malgré entre
et
deux.
On corrigera encore si on se rend compte qu'en fait on a dit.
Des bêtises. Alors on enchaîne sur cette deuxième interview de Philippe Dubois, qui est un des deux commissaires de l'exposition Game Story, qui est encore en ce moment à l'heure où nous enregistrons sur Paris, au Grand Palais, et qui met pas mal en avant en fait le côté très, on va dire, j'allais dire technique, mais finalement très artisanal du jeu vidéo, parce que lui effectivement aussi président de l'association MO5.com, et il s'intéresse beaucoup à la préservation du patrimoine,
patrimoine
vidéo ludique. Donc voilà, Chloé, je crois que tu as eu l'occasion d'aller voir l'expo.
Toujours pas.
Damned. Non, mais bon, voilà. Il faut que j'arrête aussi avec Damned. Je vais encore me le limiter. Je fais pas plus long, et donc interview de Philippe Dubois à l'occasion de l'exposition Game Story. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui pour ce numéro de Je Game Moi Non Plus et Time Extended de recevoir ni plus ni moins que l'un des deux commissaires de l'exposition Game Story, en la personne monsieur Philippe Dubois, qui avant l'exposition était déjà connu comme étant président de l'association MO5. Philippe Dubois, bonjour.
Bonsoir.
Bien, finalement, c'est ce qu'on échangeait un petit peu avant de commencer cette interview et avant de se lancer dans le vif du sujet de Game Story. Quand on fait un petit tour sur le site de MO5.com, on se rend compte qu'il n'y a pas, grand chose sur vous. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de votre histoire, comment vous est venue cette passion, cette culture du patrimoine vidéoludique?
Alors effectivement, il n'y a pas grande information sur le site web, puisque de toute façon c'est le site web de l'association et non pas un site web personnel. Ce qui est important et ce qui reste bien sûr important, c'est de mettre en avant notre travail associatif, celui de préserver le patrimoine numérique et le revaloriser, notamment au sein d'un espace comme un Game Story. Donc pour ma part, j'ai 39 ans, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très tôt, à l'âge de 9 ans, avec l'acquisition d'une première console de jeu, une Philips Videopac, qui est d'ailleurs jouable ici à Game Story avec le jeu Duel. Et puis également l'acquisition d'un micro-ordinateur dès l'âge de 12 ans, sur lequel j'ai commencé à appréhender finalement la programmation de jeux vidéo. Et bien évidemment, comme beaucoup de personnes de quadragénaires, on va dire, malheureusement c'est ce qui me guette l'année prochaine, comme beaucoup de quadragénaires qui ont commencé sur les micro-ordinateurs ou les consoles 8 bits, bien évidemment, c'est comme Obélix, quand on est tombé dedans, on peut jamais en ressortir. Et qui plus est, je n'en suis jamais ressorti. Et bien sûr, en plus, qui plus est, j'en ai fait mon métier, en fait. Je suis devenu ingénieur en informatique, ingénieur en base de données. Enfin bon, ça, c'est mon milieu professionnel lambda. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que au gré de mes études, toujours bien sûr portées d'informatique, ça vous l'avez compris, vers 1993, où j'étais étudiant en école d'ingénieur, en fait, je me suis posé la question de l'obsolescence de mes propres connaissances par rapport aux usages des consoles et vieux micro-ordinateurs que j'avais connus quand j'étais plus jeune, en me disant, mais aïe aïe aïe, est-ce que je me souviens, voilà, comment programme-t-on telle machine, comment la connecte-t-on, comment l'utilise-t-on, à quoi ressemblait le premier Sonic, etc., etc. Et je me suis dit, non seulement, bien sûr, cette mémoire-là n'était pas rigoureusement intacte, donc peut-être qu'il fallait-il que je m'intéresse très vite, finalement, à la coucher sur le papier, en tout cas sous la forme d'un document électronique. Et par rebond, je me suis dit, si c'est un phénomène qui me touche, moi, directement, potentiellement, ça peut arriver à beaucoup de mes collègues, donc potentiellement à beaucoup de monde, qui auraient eu les mêmes expériences ou qui auraient le même âge. Donc, on va dire que 93, Internet n'était pas encore arrivé dans tous les foyers, donc je n'avais pas encore de moyens de diffuser le plus massivement possible, en tout cas, ou le plus facilement possible, cette mémoire. Mais effectivement, j'avais déjà commencé à coucher sur le papier, enfin, sous la forme d'un fichier Word. À peu près même une dizaine de pages sur, tout ce dont je me rappelais en termes d'usage de la console Mega Drive, de la console NES, du micro-ordinateur X ou Y, etc. Et ce qui plus tard, finalement, 3 ans plus tard, allait devenir la base d'un des tout premiers ou le tout premier site francophone dédié à ce patrimoine en devenir, en tout cas en cours de reconnaissance. Donc, dès 1996 en France, en tout cas avec l'avènement de l'Internet grand public, le fait que les gens, dont moi-même, les particuliers, puissent accéder à Internet, notamment grâce à la technologie du modem, j'avais créé dès juin 96 une espèce de musée virtuel dédié totalement donc à cette mémoire de nos usages et également de ces vieux matériels et dédié également à ces vieux matériels-là sous la forme de fiches descriptives en incitant potentiellement les visiteurs, s'il y en avait, il y en a qui commençaient déjà à en avoir dès 1996, à s'intéresser à cette démarche, potentiellement y adhérer. Je n'avais pas encore fondé une association, ça viendra quelques années plus tard, mais déjà l'optique communautaire de partage d'informations était également dédiée à la rédaction commune d'informations. Si c'était ma mémoire qui avait alimenté au tout début les pages de ce site natif, très rapidement d'autres personnes sont arrivées dans le réseau, se sont inscrites, qui étaient soit des collectionneurs ou des joueurs ou des gens qui avaient connu la vieille, en tout cas l'histoire d'informatique ou des jeux vidéo. Et donc cela s'inscrivait au site et devenait eux-mêmes rédacteurs et commençait à alimenter également le site. Donc c'est une espèce de, il faut bien le voir comme étant une sorte de Wikipédia avant l'heure, parce que Wikipédia est effectivement arrivé très très tard. Et ce qui fut donc ce site qui s'intitulait donc le Musée d'Histoire Naturelle Informatique, hein, le pied de nez par rapport au Musée d'Histoire Naturelle tout court, mais stipulait bien, enfin finalement ce nom était vraiment très figuratif, il stipulait bien finalement qu'on était déjà parti dès 96 dans l'optique de créer un jour un musée national dédié à tout ce patrimoine. Voilà.
D'accord. Donc ça tombe par un petit enchaînement parfait parce que je disais en introduction co-commissaire avec donc Jean-Baptiste Clay. Alors comment finalement c'est faite la rencontre? Est-ce qu'il est là il était là dès le début de l'aventure ou est-ce que il est arrivé progressivement? Donc on sait que son statut était et demeure toujours responsable des collections. Donc comment s'est passé, je dirais, le début de l'aventure qui a abouti à Game Story?
Alors, monsieur Jean-Baptiste Clay, devenu membre de l'association depuis environ 2004, donc nous a rejoint finalement au gré d'une étude, puisque monsieur Clay a soutenu sa thèse pas plus tard que cette année, juste un petit peu avant l'ouverture d'ailleurs de Game Story. Et sa thèse porte justement sur le phénomène de communautarisme au sein des collectionneurs français.
La patrimonialisation des jeux vidéo et de l'informatique, sa thèse.
Exactement, le nom officiel. Et finalement, monsieur Clay étant d'origine ethnologue, donc a analysé tous les fondements finalement qui ont pu apporter ce phénomène communautaire que sont les associations de préservation du patrimoine en France. Je parle de la Mossa.com, mais également de Silicium, de la RGC, la WDA, etc. On est assez nombreux pour en arriver justement à l'émergence de Game Story. Comment dresser le code, en fait, les codes qui nous ont permis nous, à nous réseaux communautaires, associatifs, d'en arriver finalement à une patrimonialisation reconnue de tout ce patrimoine numérique, de l'histoire des jeux vidéo et de l'informatique, de nos usages liés à ces matériels-là, et en arriver donc à une institutionnalisation finalement compatible avec la création de Game Story. Donc c'est à peu près 8 ans de travail, hein, commun notamment entre Jean-Baptiste Clé et moi-même, pour justement d'abord créer finalement une espèce de fil de conduite de que voudrions-nous nous présenter au sein d'un musée national dédié au patrimoine numérique en termes de pièces d'œuvres représentées, comment en arriver justement à écrire un dossier scientifique et culturel compatible avec ce qu'en attendent potentiellement les institutions culturelles comme le ministère de la Culture ou tant d'autres. Voilà, tout cela a pris quelques années. Et finalement, par rapport à Game Story même, c'est tout à fait au gré d'une rencontre entre Monsieur Neutre, travaillant au Grand Palais, c'était en décembre 2010, et puis Monsieur Jean-Baptiste Clé, l'opportunité qui nous a été offerte d'investir la galerie Est dans laquelle nous sommes ici avec Game Story, qui était en voie de rénovation, qui allait donc rouvrir en 2011, et nous-mêmes qui avons emporté ce projet. Finalement à la base associative de création d'une grande exposition sur le jeu vidéo et de remise en contexte du jeu vidéo par rapport à notre société, par rapport à ce bien culturel, cette œuvre de l'esprit que peut être le jeu vidéo. Et donc cela a été finalement validé par les RMN, la réunion des musées nationaux et le Grand Palais communément en début d'année 2011, vers avril 2011, et Game Story donc était validé et a démarré. Finalement, le projet a réellement démarré à peu près en avril 2011. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est la première fois que la RMN finalement travaille avec une association de bénévoles telle que Emotion.com. Et qui plus est, c'est la première fois qu'elle travaille sur un projet finalement de si courte durée. Généralement, une exposition culturelle pour la RMN, MGP ou le Grand Palais, ce sont des projets qui se créent sur une durée à peu près de 2 à 3 ans. Voilà. Là, il a fallu entre 6 et 8 mois pour que naisse Game Story. Donc c'est extrêmement rapide. Et malgré tout, je dois dire donc que le résultat est extrêmement positif. Il me semble que d'ailleurs, quels que soient les partenaires, aussi bien le CEL, la réunion des musées nationaux, le Grand Palais ou nous-mêmes Emotion.com, tout le monde tire parti de l'excellente visibilité publique dans les médias ou auprès des blogs sur Internet qui est offerte dans la Game Story. Et les retours sont particulièrement positifs. Voilà.
Alors encore un pont parfait pour moi, un petit peu l'incontournable question, forcément sans éviter le buzz sur la question. Qu'est-ce qu'il en a été donc de la présence de Monsieur Mitterrand sur l'exposition ? Déjà dans un premier temps, est-ce que on est en présence d'un soutien potentiel de l'État par rapport à la conservation autour du patrimoine, comme vous insistez à le dire, à la fois micro-informatique et du jeu vidéo en particulier ? Et puis dans un second temps, voilà, qu'est-ce qui est ressorti, j'ai envie de dire, concrètement de cet échange, des projets effectifs à prévoir, un budget à louer, enfin, toutes ces questions qu'on se pose un petit peu tous.
Alors concrètement, si nous rebroussons un petit peu le fil de l'histoire, mais juste quelques années auparavant, donc la première date, une des premières dates données dans l'histoire de France par rapport à la reconnaissance du patrimoine numérique, c'était 2004, donc une année à laquelle, donc pour la première fois, le gouvernement s'est a posé une question auprès des institutions nationales, en l'occurrence le Musée des Arts et Métiers, pour leur demander est-ce qu'il existait un patrimoine numérique. Donc la réponse a été apportée. 2006, nouvelle date, la question s'est transformée en « Nous avons compris qu'il existait un patrimoine numérique, pouvez-vous le définir pour nous et quelles sont les entités qui, en France, œuvrent pour la préservation de ce patrimoine-là » Et finalement, il a fallu attendre 2009, une nouvelle date, pour que nous puissions nous-mêmes rencontrer Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Frédéric Mitterrand, sur une exposition, en l'occurrence le Festival du jeu vidéo 2009, qui parcourt nos espaces dédiés à la culture ou à l'histoire du jeu vidéo, et qui trouve l'initiative réellement intéressante, surtout le fait de l'avoir portée déjà au grand public. Hein. Il faut bien voir que Game Story est pour nous la 93e occasion de porter à la connaissance du public, l'histoire des jeux vidéo ou de l'informatique, en tout cas du patrimoine numérique. Nous avions déjà, donc, depuis 2009, une écoute du ministère de la Culture, de Monsieur le ministre et de certains de ses conseillers, portés plus particulièrement sur la question du patrimoine numérique. En 2010, donc en avril 2010, le 26 avril, a été donc Monsieur le ministre de la Culture a donné finalement un discours dans lequel il portait certaines mesures en la faveur de l'industrie contemporaine du jeu vidéo française, l'industrie française des jeux vidéo, mais également citer certaines institutions dont Homo5.com sur le fait que si cette industrie française du jeu vidéo avait à peu près 30 ans, elle est donc une histoire qu'il fallait donc préserver. Et donc il a cité au gré des institutions nationales reconnues qui œuvraient déjà pour préserver ce patrimoine-là, notamment le CNC, une nouvelle fois le Musée des Arts et Métiers, la BNF, qui est connue pour avoir le dépôt légal depuis 1992, et également l'association Homo5.com. Donc c'est dire que déjà, dès 2010, monsieur le ministre nous connaissait déjà bien, connaissait notre savoir-faire, notre engouement pour créer potentiellement un espace permanent dédié au patrimoine numérique. Et finalement, lorsque le ministère de la Culture, en début 2011, a eu vent de cette initiative à Game Story, eh bien, il faut bien savoir qu'en juin, lors de la réunion des ministres, c'est Monsieur le ministre de la Culture qui a annoncé la création de l'exposition avant même la RMN ou l'association elle-même. Voilà, avant même que nous puissions nous rapporter le fait que l'exposition allait avoir lieu. Donc oui, il y a un intérêt fort et fixe de Monsieur le ministre depuis maintenant de nombreuses années par rapport certes aux jeux vidéo, mais également par rapport à sa reconnaissance en termes de patrimoine, en tout cas d'objets culturels importants, et certainement donc 2011 verra peut-être, en tout cas nous l'espérons, la création d'un projet visant à créer un quoi que ce soit, une institution en tout cas permanente dédiée à ce patrimoine là. Voilà.
Est-ce que justement le fait qu'il se, Monsieur Mitterrand, devant tout cet enthousiasme, soit saisi, non pas assez vite, mais presque devançant le projet de Game Story, explique un petit peu le temps assez court que vous avez eu pour justement réaliser l'exposition qui a été de seulement, on le rappelle comme vous l'avez dit tout à l'heure, 6 mois.
Oui, totalement. Bien évidemment, à temps aussi extraordinaire pour monter une exposition de cette envergure, il faut bien voir, bien sûr, que les moyens furent eux-mêmes extraordinaires. Et les moyens extraordinaires se débloquent, en tout cas dans une institution culturelle comme la RMN ou le ministère de la Culture, ne se débloquent que si, justement, la hiérarchie appuie, elle, valide immédiatement et surtout appuie fort pour que ça puisse se réaliser. Donc oui, il y a eu un appui extrêmement fort et ferme, définitif du ministère de la Culture et donc de Monsieur Mitterrand pour que Game Story puisse avoir lieu. Donc cette exposition, c'est certain, lui doit beaucoup.
D'accord, très bien. Bah, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Hein. Si vous entendez des chip tunes et des sons MIDI et des tapotages de touches de stick Neo Geo, c'est normal. Nous sommes, hein, j'ai oublié de le préciser, mais directement sur le banc, tout simplement, de l'axe 89-94 du pixel art de l'exposition. Donc, alors. Tout de suite, hein, ce qui frappe, qu'est-ce qu'il en a été du choix de la scénographie, justement, de l'exposition? Est-ce que c'était un but d'emblée précis et visé par vous comme par Monsieur Clay? Est-ce qu'on était plus proche de l'hommage, de la célébration, enfin, de cette reconnaissance que certains diront a été attendue depuis longtemps? Et dernière question dans ces questions, dans quelle manière se combine finalement le rapport esthétique et technique, j'insiste sur technique parce que c'est peut-être un de ceux qui vous intéresse le plus par rapport à une exposition dédiée aux jeux vidéo, entre autres.
Ça fait beaucoup de questions en une.
On va dire le rapport esthétique et technique dans un premier temps.
Bah, le rapport. Non, reprenons toutes les questions, il n'y a aucun problème. Donc, premièrement, par rapport à l'aspect scénographique, il faut bien voir que c'est la première réelle exposition française dans laquelle on est enclin, où nous avons eu justement les loisirs et l'opportunité de replacer le jeu vidéo pour ce qu'il représente nous en termes d'objets culturels par rapport à notre société, par rapport à notre culture. Et donc il fallait pour cela, pour expliquer notamment cela à des gens qui potentiellement ne connaissaient pas encore le jeu vidéo, ils sont tout de même assez nombreux, il faut savoir que les chiffres officiels font état de 28 millions de joueurs en France, donc ça laisse beaucoup de gens sur le banc encore, sur le carreau, et potentiellement donc un public notamment issu des milieux culturels, des réseaux culturels de la RMN, hein, qui sont eux habitués à aller visiter des expositions comme Monet au Césaire, qui ne connaîtraient pas donc forcément le jeu vidéo. Il fallait tout faire pour pouvoir accueillir correctement ces gens-là. Donc la scénographie a été pensée et le fruit d'une réflexion qui, elle, date d'assez longtemps par rapport à notre travail au sein de l'association. pour avoir une scénographie donc plutôt claire, plutôt ouverte, dans laquelle les gens ne seraient pas agressés par des imaginaires, de l'imagerie ou du son, quoi que ce soit issu de jeux vidéo, comme c'est souvent le cas, ou trop souvent le cas certainement dans les salons spécialisés de jeux vidéo. Vous savez, vous en avez certainement déjà fait, vous rentrez là-dedans, c'est abrutissant, c'est assourdissant, il y a des images partout, des écrans monstrueux, enfin bref, ceux qui ne connaîtraient pas potentiellement le jeu vidéo et ses codes s'y sentiraient certes mal à l'aise. On m'a d'ailleurs déjà fait la remarque sur des expositions passées. Et donc ici, tout a été réellement fait, mis en œuvre pour que, voilà, encore une fois, les gens qui ne connaîtraient pas le jeu vidéo ne se sentent pas menacés quelque part par ce nouveau média, puissent au contraire se l'approprier correctement, facilement, en allant tout naturellement vers les manettes de jeu avec ces petits cartels d'exposition qui accompagnent chacune des œuvres ici sélectionnées. Il y en a 80 jouables sur du matériel historique, où pour chacune d'entre elles déjà les cartels qui ont été les textes écrits justement dans le parcours d'exposition sont écrits d'une manière très simple. C'est-à-dire que nous n'avons pas employé exprès de jargon issu encore une fois du monde des jeux vidéo. Au contraire, pour que cela reste très grand public, que les gens qui ne connaîtraient pas l'histoire de Mario ou Sonic, etc., puissent comprendre à peu près d'où vient le personnage, se l'approprie et donc commence à jouer et apprécie le jeu pour toutes ses qualités. Et c'est pour cela que nous avons figuré tout un ensemble d'objets contextuels aux jeux vidéo, aux œuvres présentées elles-mêmes. Donc, prenons l'exemple de Barbarian qui est figuré devant nous. Barbarian, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je le cite très vite, c'est un petit peu l'ancêtre de tous les jeux de combat que l'on connaît avec les Soul Calibur, les Tekken, etc. C'est un jeu de combat à deux joueurs dans lequel vous avez un puissant guerrier ou deux guerriers d'ailleurs qui vont se battre l'un contre l'autre dans un combat à mort. Et pour figurer d'où bien provenir cette œuvre, ce jeu vidéo, eh bien nous avons mis dans une vitrine juste à se poser par rapport au jeu vidéo jouable, eh bien des éléments d'imaginaire dont se sont certainement inspirés les créateurs du jeu lui-même. Donc vous voyez ici notamment une affiche de Conan le Barbare, ce fameux film datant de 82, si je ne dis pas de bêtises, voilà, dans lequel sont figurés un puissant barbare, Arnold Schwarzenegger, on ne va pas le présenter, l'Amazone, sa fidèle qui va l'accompagner dans l'aventure, et puis voilà, cet aspect musculeux, très moyenâgeux, heroic fantasy, puisque baigné de magie. Et finalement, l'affiche elle-même du jeu Barbarian 2, qui est donc jouable, je le répète, à côté, eh bien, reprend exactement les mêmes codes visuels. Et donc, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le jeu vidéo, qui ne connaîtrait pas Barbarian 2, potentiellement pourrait connaître le film Barbarian, puisque c'est, enfin, excusez-moi, Conan le Barbare, j'ai fait un lapsus révélateur, mais connaîtrait bien le film éventuellement, puisque c'est un film culte, en tout cas pour le 7e art, eh bien, ferait tout à fait la translation de l'un à l'autre en disant, mais oui, ils se sont inspirés, donc je comprends l'esprit, donc je comprends ce dans quoi baigne l'œuvre elle-même, et donc si je prends la manette, je vais pouvoir finalement jouer l'avatar du personnage dans le film, et donc je peux me l'approprier facilement. Et finalement, tous les rapprochements ont été par rapport aux œuvres présentées jouables ici, ont été créés un petit peu dans cet esprit-là, pour justement faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo ou les œuvres présentées puissent facilement faire le pas, n'aient pas peur des imaginaires qui leur sont présentés jouables, interactifs, mais au contraire, puissent prendre parti sur quelque chose existant, dans soit un autre art ou un autre média au pire, et puissent voilà, faire les traductions entre guillemets de ce qui leur est présenté. Et je pense que c'est quelque chose qui marche bien, puisque de même, d'ailleurs, de la part de plusieurs médias qui ne sont pas du tout spécialisés dans le jeu vidéo, nous avons pu voir d'excellents retours, et justement ce phénomène-là de translation entre des œuvres issues d'autres médias ou d'autres arts jusqu'à en arriver au jeu vidéo, parfaitement comprise et totalement mise en valeur. Voilà, c'était le but de l'exposition.
Donc finalement, de renvoyer à une sorte, même pas d'inconscient, parce qu'il est impossible d'avoir évité soit un film de Schwarzenegger, soit les petites figurines aussi, les action figures que tout le monde connaît, d'avoir effectivement, comme vous étiez en train de dire, une référence à cette culture populaire.
Voilà, exactement. Autant, je vous l'annonçais, on a 28 millions de joueurs en France, donc ça fait qu'il y a une part de la population qui est laissée de côté, mais finalement, j'aurais envie de croire que certainement beaucoup plus de Français connaissent le cinéma, connaissent la télévision, connaissent la bande dessinée, connaissent les mangas, connaissent les comics américains, la BD franco-belge, enfin tous ces éléments-là. Prenons le cas des Schtroumpfs par exemple, cette adaptation jouable du jeu Les Schtroumpfs sur console ColecoVision de 1982, eh bien voilà, vous avez un article qui figure, et même la bande dessinée des Schtroumpfs de Peyo qui figure réellement les croisements qui ont eu lieu entre d'autres médias, d'autres éléments de notre culture, pop culture, je dirais, depuis près de 40 ans, par rapport à la création d'un jeu vidéo. Et derrière, si on prend le cas, par exemple, de Tomb Raider, eh bien, on va avoir exactement le contraire, l'alimentation inverse, c'est-à-dire des arts, d'autres médias, ici, par exemple, le cinéma, d'autres arts, qui vont s'alimenter du jeu vidéo pour extirper cette héroïne qui est Lara Croft du jeu Tomb Raider, pour en faire un film, pour en faire des publicités, pour en faire des personnages potentiellement de bande dessinée, etc. Et donc la boucle est bouclée, voilà. Et c'est ce que démontre notamment l'exposition.
Et là, je vais sciemment un tout petit peu plus loin pour les connaisseurs que votre exposition, mais on voit finalement que les barrières sont en train de carrément tomber à ce niveau-là, parce qu'on voit des jeux comme Assassin's Creed d'Ubisoft, où là, il n'y a plus du tout de barrières, le jeu s'inspirant le cinéma et des références et des ouvrages autour de tout ce qu'on appelle le transmédia, etc. Et où là, finalement, comme vous dites, la boucle est bouclée. Et pour revenir, avant de passer à la suite, à l'exemple judicieux de Barbarian, vous n'avez pas cité la créature plantureuse, on va dire, hein, qui n'avait rien envié au film aussi de Ruth Meyer, accessoirement à Schwarzenegger, dans les emprunts, on va dire, de poitrine.
Exact, je pense que l'inspiration est également forte. C'est vrai qu'on ne l'a pas figuré ici, je vais y repenser pour une nouvelle exposition.
Alors, donc, on continue en fait avec forcément la question qui arrive au bout de tout ce parcours. C'est un tout petit regret. Faut bien jouer l'avocat du diable. C'est que les auteurs sont un petit peu assez peu mis en avant. Il y a toujours le fait qu'un jeu vidéo, qu'est-ce qu'un auteur dans un jeu vidéo. Évidemment, il y a cette complexité là. Alors, est-ce que peut-être ça a été fait sciemment de votre part, Monsieur Clay, ou est-ce que c'est un choix pour ne pas arriver à, là aussi, peut-être noyer le visiteur qui n'aurait pas toutes ces références, toutes ces connaissances là?
C'est totalement un choix assumé. Donc il faut bien voir que d'ailleurs la majorité des créateurs, on parle d'auteurs ou de créateurs de jeux vidéo, notamment français, sont quasiment tous membres d'honneur de l'association Homo-Sama.com. Donc nous les connaissons très bien, nous les rencontrons très régulièrement. Ils sont conviés d'ailleurs à des conférences ou des tables rondes ou des ateliers au sein même de Game Story. Donc ils sont présents dans Game Story. Si ce n'est qu'effectivement, dans le parcours d'exposition, nous n'avons pas figuré une espèce d'assemblage de biographies diverses par rapport aux auteurs eux-mêmes de jeux vidéo, parce que simplement nous voulions vraiment donner tout le champ possible pour que le jeu vidéo lui-même puisse être légitimé et puisse prendre sa place. Je dirais que la reconnaissance juste en phase 2 par rapport à la création de Game Story des créateurs de jeux vidéo, et comme je vous le disais, nous les connaissons très très bien et nous les aimons beaucoup, se ferait dans une autre exposition où là, le plus grand public aurait compris donc toute la place qu'occupe réellement le jeu vidéo dans la société, donc aurait de lui-même finalement aboli les frontières ou les problèmes que l'on a vu par rapport à la reconnaissance du jeu vidéo depuis à peu près une dizaine d'années, en termes comme le figure encore le massacre d'Oslo, etc. Une fois qu'on aurait franchi cette frontière-là, eh bien, oui, là, nous aurons la place, juste après Game Story, pour finalement rentrer dans le détail et notamment expliquer, faire une exposition peut-être potentiellement sur les créateurs justement de jeux vidéo, exclusivement réservés à cela, internationaux, français ou internationaux, et également faire une exposition, c'est une autre piste, il y en existe beaucoup, sur les dérivés artistiques par rapport aux jeux vidéo. C'est quelque chose qui n'est pas figuré dans l'exposition, mais qui est très présent et sur lequel nous-mêmes nous travaillons beaucoup au sein de l'association Homo-Sama.com. Simplement, voilà, pour ne pas noyer quelque part le poisson et surtout le public, nous avons réellement mis l'accent et le phare finalement exclusivement sur l'œuvre jouable, le jeu vidéo. Expliquer le jeu vidéo, sa place prépondérante dans notre culture, dans notre société, en rendant le jeu jouable sur des dispositifs historiques. C'est réellement ça le propos de Game Story. Voilà. Après, tout le reste, notamment donc cette reconnaissance pour les créateurs, qui est très importante à mes yeux, vous pouvez me croire, elle se fera soit dans une autre exposition, soit se fera, et nous l'espérons tous, dans un espace permanent dédié à ce patrimoine-là, et qui fera bien plus, nous l'espérons également, beaucoup plus que 600 mètres carrés. Donc ce qui laissera le champ beaucoup plus de mettre déjà beaucoup plus d'œuvres appréhensible par le public, et puis également laissera le champ à des installations dans lesquelles nous pourrons justement aller présenter toute la mémoire, tout le génie, toutes les inspirations des principaux créateurs français et internationaux, mais également d'autres champs d'exploration potentiellement artistique issus du jeu vidéo.
Donc une certaine, pour résumer votre pensée, laisser les joueurs néophytes ou spécialisés se familiariser avec cette histoire du jeu vidéo et dans un second temps proposer des expositions plus dédiées.
Exactement, exactement.
D'accord, très bien. Donc là aussi on y vient dans la continuité. Est-ce que vous avez déjà des éléments ou des projets un petit peu formalisés pour l'avenir d'exposition? Est-ce qu'il serait un focus sur des auteurs? Est-ce que sur une console? Sur dans la mesure de ce que vous pourriez nous révéler de vos projets en tout cas?
C'est une question qui vient un petit peu trop tôt par rapport encore même au projet Game Story, parce que celui-ci va vivre, l'exposition va vivre jusqu'au 10 janvier, donc ça nous laisse pas mal de marge. Maintenant, j'aurais envie de dire que il faut bien voir que Game Story est le fruit d'à peu près 15 ans de travail au sein de l'association M-5.com ou des associations partenaires, d'autres collectionneurs privés de France et d'ailleurs. Si vous voulez, notre projet, ce n'est pas notre projet final, ça vous l'avez compris, puisque nous désirons tous avoir un espace permanent dédié à tout ce patrimoine-là, et au sein duquel nous espérons que nous aurons la place et les moyens, justement, de rentrer vraiment dans le détail et de voir figurer tout ce pourquoi nous travaillons depuis 15 ans. Donc en termes de reconnaissance du jeu vidéo, mais également de l'informatique, de tous les objets numériques qui nous entourent depuis à peu près 30 ou 40 ans. Également, on l'a dit, cette pyramide de savoir liée aux constructions des différents créateurs de jeux vidéo, aux différents auteurs, etc., etc. Donc, si vous voulez, nous-mêmes, nous débordons totalement d'énergie et potentiellement même de projets. Nous n'avons quasiment pas de frontières, si ce n'est que, ou de limites, si ce n'est que maintenant, nous attendons un geste fort, peut-être de la part du gouvernement ou d'autres institutions nationales, pour nous donner accès à un lieu permanent, nous donner les clés d'un accès permanent à un lieu de culture dédié donc au patrimoine numérique, dans lequel nous déplacerions à la fois toutes nos collections qui sont les premières d'Europe, hein, peut-être les premières même du monde, dans lesquelles nous pourrions donc exprimer tout ou partie de nos formidables connaissances, notre expertise du domaine, hein, qui sont beaucoup plus larges que ce que figure d'ailleurs Game Story. Voilà, on peut également parler, toujours reparler de cette expertise, de cette connaissance de nos différents créateurs français. Voilà, donc je dirais quelque part, la balle finalement n'est pas dans notre camp. Vous voyez ce que je veux dire? Nous-mêmes, finalement, avec le projet Game Story, nous avons pu démontrer qu'une association Loi 1901 de bénévoles qui travaille donc depuis à peu près 15 ans autour du sujet même de la patrimonialisation du jeu vidéo, de tout ce qui est numérique, est capable d'accompagner les institutions culturelles nationales jusqu'à la réalisation d'une si belle exposition. Maintenant, voilà, nous attendons, comme je disais, un geste fort de la part du gouvernement ou des institutions nationales pour aller réellement de l'avant, pour aller à cette seconde étape attendu et nécessaire, qui est donc la constitution d'une réserve et d'une exposition permanente dédiée au patrimoine.
Ouais, pour resituer, donc vous l'avez déjà fait, mais effectivement on ne l'a pas fait, MO5 donc qui représente l'exposition, excusez-moi, la collection la plus importante de patrimoine vidéoludique d'Europe, hein, et effectivement l'autre problématique que vous avez effleuré, hein, vous pourrez me reprendre si je me trompe, c'est qu'à l'heure actuelle il y a des gros soucis, je dirais, logistiques finalement de stockage, hein, avant même, peut-être c'est pour ça que vous m'arrêtiez dans mon enthousiasme par rapport aux expositions à venir.
Tout à fait, il faut bien voir que nous-mêmes, donc, si nous travaillons depuis 15 ans avec nos moyens propres, puisqu'il faut bien savoir que l'association n'a jamais disposé de subventions ou de quelconque aide financière, aussi bien d'une institution nationale ou du secteur privé, nous n'avons jusqu'à présent travaillé qu'avec nos deniers propres, avec nos propres fonds, souvent donné par des bénévoles ou des bienfaiteurs ou des mécènes. Et finalement, nous avons, il faut bien le voir, toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque nos locaux, qui nous sont très généreusement prêtés par la mairie d'Arcueil, hein, il faut bien le dire, il faut bien rendre à César ce qui est à César, finalement ne nous appartiennent pas encore. Donc j'aurais envie de dire, c'est un très beau projet, Game Story, c'est un formidable projet, et Dieu sait que des milliers de gens partout à travers le monde trouvent notre initiative depuis à peu près une quinzaine d'années absolument formidable et indispensable, même par rapport à notre propre culture, de nos usages des matériels ou de la technologie du numérique. Maintenant, j'aurais envie de dire, dire, si personne, à un moment donné, ne nous donne le loisir, l'opportunité d'acquérir un espace permanent et pérenne pour que puisse être protégé ce patrimoine, et je parle même pas des intérêts associatifs de Mossa.com, je parle réellement du patrimoine numérique dans son ensemble, notamment français, eh bien, nous avons toujours ce risque, à un moment donné, de voir disparaître toute cette histoire, tout ce travail, tout ce patrimoine-là, toujours. C'est quelque chose qui existe malheureusement au-dessus de nos têtes depuis 2008, depuis que nous avons dû déménager de nos anciens locaux, c'était dans le nord de Paris. Et donc voilà, c'est quelque part aussi un appel à l'aide, puisque si tout le monde trouve formidable, comme je disais, ce travail, jusqu'à avoir un travail voilà associatif bénévole qui donne naissance à une si belle exposition, il faut bien voir que la partie n'est pas gagnée, on est encore en train de jouer. Et que nous n'aurons gagné que lorsqu'on aura enfin acquis les clés d'un local pérenne. Et j'aurais envie d'ajouter que nous sommes justement, nous prouvons avec Game Story que même en étant bénévole et en étant doté d'aucune subvention, nous sommes capables de créer un si beau contenu dans un si bel écran, celui qui nous a été donné temporairement par la RMNGP. Maintenant, si qui que ce soit nous accompagne à quelconque niveau pour nous donner accès à un local permanent, il faut bien voir que tous les membres, ils sont 315 inscrits et ils sont des milliers partout dans le monde, n'ont qu'une volonté depuis 15 ans, c'est d'avoir accès à ce local-là. Ça veut dire que très rapidement, toutes nos collections, tout notre savoir-faire, toute notre expertise, tous nos membres même, bénévoles disponibles, seront là pour créer immédiatement cet espace permanent et accueillir le public pour leur présenter le fruit de notre travail. Ça sera quasi instantané. Donc finalement, on n'a même pas besoin de moyens colossaux. Il nous faut juste un local pérenne, permanent.
Alors une dernière question qui concernerait un petit peu un prolongement de cette idée de vos projets futurs. Est-ce que vous envisagez des collaborations déjà en France, par exemple, avec des expositions peut-être que certains ont eu moins connaissance, mais qui ont eu lieu, comme je pense à l'expo Arcade et récemment d'un autre collectif de créateurs indépendants One Life Remains qui a eu lieu au Théâtre d'Evry, qui ont été organisés par Nicolas Rosette et Marion Coville. Donc Marion Coville, le Moussi pour ceux qui connaisseraient davantage son pseudo, et peut-être un petit peu plus loin, est-ce que vous avez déjà des contacts, supposons européens, voire même internationaux, parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu à l'étranger, notamment aux États-Unis, ce qui a été fait au MoMA sur des scènes, sur des jeux plus indépendants, moins connus, qui donnent vraiment un tout autre regard sur le jeu vidéo. Donc c'est un petit peu la même question, mais pas de moyens pour l'instant, mais est-ce qu'il y a au moins des envies?
Alors oui, j'aurais envie. Alors, déjà, quasiment tous les gens, organisateurs ou personnes qui ont travaillé sur les projets que vous avez cités, nous les connaissons. Ils font partie de nos relations, nous travaillons de temps en temps même ensemble. Il faut savoir que nous avons participé notamment à Arcade. Donc nous connaissons très bien ces gens-là. Et par extension, je vous dirais même que nous sommes connus et nous travaillons de temps en temps, quand les moyens nous sont donnés, avec des institutions internationales. On peut parler du Computer Spiel Museum de Berlin, on peut parler d'initiatives identiques à Barcelone, on peut parler de l'initiative actuellement entre la BBC et puis le gouvernement anglais donc à Londres, également des initiatives américaines, elles sont assez nombreuses, notamment les auteurs de ces initiatives sont tous inscrits sur des mailing lists connus, l'International Game Developer Association. Donc tous ces gens-là, nous les connaissons et ils nous connaissent. Mais j'aurais envie de vous dire que ce soit d'ailleurs des gens qui travaillent dans un théâtre de ville commune, enfin de la même commune ou proche de Paris, ou à l'international au Japon même, où nous sommes connus, je voudrais dire que le problème de base reste le même, c'est que nous-mêmes, de toute façon, puisque nous n'avons pas encore de locaux pérennes, nous ne pouvons pas travailler sereinement déjà à établir un programme correct et sensé par rapport à la préservation du patrimoine de nos collections qui sont absolument prodigieuses. Et par extension, on ne peut pas non plus travailler sur des collaborations parce que de toute façon, nous ne pourrions pas accueillir ces gens-là ou nous ne pourrions pas nous déplacer pour aller à leur rencontre. Donc le problème de base reste exactement le même. Et il en vit, l'envie, elle, c'est la même que celle que nous avons depuis, que nous portons depuis plus de 15 ans maintenant. Vous voyez, nous les connaissons très bien. Je vais recevoir d'ailleurs monsieur Lange du Computer Spiel Museum en décembre à Game Story. Et nous travaillons ensemble, nous réfléchissons ensemble depuis longue date sur la représentation qui doit être faite dans un musée permanent par rapport aux jeux vidéo. L'avantage de Berlin ou de, par exemple, de Londres ou des États-Unis, c'est qu'ils ont déjà des lieux fixes sur lesquels ils arrivent à travailler eux-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes cernés, nous sommes empêchés d'avancer correctement parce que nous n'avons pas justement de lieu fixe dans lequel accueillir le public et présenter des expositions, des thématiques, etc. Donc voilà, on en revient au même problème que la question précédente, malheureusement.
Comme disait nos aïeuls, en France, on a des idées, mais pas encore de l'argent, en espérant que ça vienne pour toutes vos initiatives. J'ai menti à moitié, mais une dernière question là de plaisir de joueur. À quand la finalisation du Pong sur le toit de le plafond pardon de l'exposition?
Alors, je pourrais vous avouer qu'il fonctionne alors qu'il est. Simplement, il y a des petits problèmes de scénographie parce que c'est pas évident, bien évidemment, de rendre jouable un pont sur près de 40 mètres de long. Il va sans dire qu'il faut certains dispositifs, notamment de sécurité. Mais le programme fonctionne. Donc, certainement, demain matin, je serai sur place justement pour le tester et le valider. Mais en tout cas, donc ça va être un événement, je pense, assez prodigieux. Donc le programme lui-même de Pong est jouable à deux joueurs, ou alors on joue tout seul au plafond pour accompagner d'une manière assez amusante finalement les visiteurs de l'exposition. Voilà. Donc je pense qu'on va certainement refaire un petit peu de buzz par rapport à cela, réinviter le public ou la presse ou les médias à venir disputer une partie du Pong avec nous. Voilà.
Ce sera avec grand plaisir que Je Game moi non plus sera présent. Donc je rappelle Game Story, une histoire du jeu vidéo, c'est au Grand Palais du 10 novembre au 9 2011, bien sûr, au 9 janvier 2012 hein. Donc écoutez, j'ai pas envie de dire courez-y, mais c'est quand même une période assez courte, profitez peut-être j'ai envie de dire des fêtes hein, et puis c'est quelque chose qui se découvre très facilement en famille, qui se partage, et voilà. Merci en tout cas beaucoup Philippe Dubois pour votre temps et ses réponses.
Merci infiniment à vous.
Voilà, donc on vous dit au prochain Time Extended, et si vous avez des remarques, des sujets à nous suggérer, ma foi, n'hésitez pas. Voilà, on vous dit à plus. Ciao.
Au revoir.